Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben, nous sommes... C'est parti. On enregistre. Salut Damien.
Bonjour Bart.
Comment vas-tu?
Bah super, hein, on vient de prendre un petit café là en terrasse, donc du coup tout va bien en cette période là, on est vraiment super content, plein de bonnes perspectives, voilà, c'est bien.
Ouais, c'est bon. Tu mentionnes le café en terrasse. Effectivement, on est le lendemain de la réouverture des établissements de restauration et aussi des clubs de sport.
Alors,
je sais pas quand exactement ils rouvrent, mais
Alors les clubs de sport c'était donc hier aussi également. Ouais. En ce qui nous concerne, c'est pour les enfants, hein, donc pour les enfants, activités des mineurs. Donc on a retrouvé nos enfants et tout. Donc ça aussi, ça correspond aussi à notre bonne humeur du jour parce que bon, c'était important de les retrouver. Dans une salle de sport, hein, donc les enfants, c'est la base. Donc oui, donc on est heureux.
Bon, bah super. Bon, on, effectivement, c'est un sujet sur lequel j'ai envie qu'on, qu'on discute un petit peu aujourd'hui. Effectivement, ce que tu fais maintenant, via ton club. Mais on va parler aujourd'hui, on va parler karaté, on va parler longévité, on va parler la construction, de construction aussi. Comme je te le disais, pour lancer, j'aime bien commencer un petit peu par l'enfance, savoir un peu qui tu étais avant, qui était le petit Damien. Et la question traditionnelle ici, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Bah, tu as raison, hein, Bart, hein, l'enfance, hein, c'est vraiment ce qui va définir souvent l'homme. Hein, donc, il y a des événements. En ce qui concerne, c'est simple, hein, c'est l'école. J'ai 6 ans, j'ai vécu donc la première partie de ma vie seule avec ma mère. Ouais. Et donc, il fallait choisir une école primaire. Et elle a eu l'idée lumineuse, géniale, j'ai envie de dire, de me mettre dans une école, une petite école privée où il y avait sport tous les jours. Ce qui normalement n'existe pas, sport tous les jours. Wow. Donc une sorte de sport étude pour les enfants, hein, mini sport étude. Donc je pense que donc ça m'a donné donc ce goût, hein, ce goût de l'effort évidemment, cette régularité. Donc c'était lundi, mardi, le mercredi il y avait judo, hein, okay. Toujours donc dans la même structure. Et c'est ça. Alors je me souviens du petit, il y avait un petit terrain de foot. On faisait un petit trajet là de l'école. Ça devait, c'était peut-être 50 ou 100 mètres, mais c'était stimulant. Hein, on marchait, on arrivait. Petit terrain de foot. Il y a, j'ai encore l'odeur, la terre. Derrière il y avait un parcours de cross aussi. Donc on avait différentes activités. Il y a ce terrain de foot, différentes activités. Le parcours de cross qui devait faire 1 km, mais on a l'impression que ça faisait 10 bornes.
Ouais, quand on est jeune.
Et puis il y avait une espèce de cabanon géant qui faisait, on pouvait passer donc en intérieur et on faisait les cours de judo. Et notamment donc le prof de judo était aussi ce prof de gym qui nous accompagnait tous les jours. Et il a une importance vraiment majeure parce que donc il m'a pris sous son aile. Moi j'étais bon sport et quand on parle de message, hein, il m'a toujours dit bah Damien t'as le profil, t'as les qualités pour être un champion. Et ça, okay. Ça m'est toujours resté, et je l'ai gardé en moi, donc gravé.
Tu sais pourquoi donc, il disait ça?
J'aimais ça. J'étais déjà passionné. J'étais compétiteur. J'avais des qualités. Tout ça conjugué. Lui, c'est un profil charismatique. Hein, c'était un ancien commando para qui avait atterri là, et donc qui avait pratiqué tous les sports de combat. Et quand on parle du judo, hein, parce que j'ai commencé par le judo, donc en kimono, puisque en tant que karatéka, donc il y a quand même un lien. Et ce qui est curieux, c'est que quand je rentrais dans le dojo, il y avait un grand poster. Et dans ce poster, c'était pas le poster en général dans les arts martiaux. Le poster, c'est le poster du maître, hein, celui qui a créé. Hein, donc en karaté, il y a différents maîtres, mais souvent c'est ça. Ces références-là pour le judo, il y a Jigoro Kano pour les puristes, qui est donc le créateur du judo. Et là, normalement, c'est ce poster que l'on retrouve, hein, ce tableau. Et là, non, c'était un champion français, Dominique Valera.
Okay.
Dit le King, hein, donc c'est une légende du karaté, hein, toujours présent. Le gars, il a 75 ans, il est au top de la forme et tout, c'est incroyable. Et donc voilà, il y avait ce tableau-là et en dessous, il est marqué l'homme le plus dangereux du monde. Et donc voilà, donc c'est toute cette ambiance-là et fait que bon, j'ai commencé dans le sport par dans ce climat-là. Et pour la petite histoire, hein, donc ils ont fait un grand bond. 30 ans après, je rachète la salle qui avait été donc créée par Dominique Valera.
D'accord.
Donc c'est quand même fou.
Donc c'est plus qu'un, c'était plus qu'un prof, quoi. C'était un mentor, voilà, un ami.
Non.
Le King, pardon, celui qui était en tableau.
Le King. Lui, pardon, ouais. Le King était là. Il était là, il reste King. Et donc il est à l'époque donc sur Lyon, il avait monté cette salle à Lyon donc pendant au début de mon enfance, hein, à peu près, hein, c'est une salle qui a 50 ans, donc voilà, quoi.
OK.
Donc l'histoire est belle.
OK. Ouais, bah je vois ça, ouais. Mais je vois que t'en parles, en plus je vois des étoiles un peu dans tes yeux, t'en parles encore avec beaucoup d'émotion, c'est la passion.
Oui, parce que la passion, j'ai envie de dire, est éternelle, hein, donc c'est moteur, hein, on veut les retrouver, en fait, hein, être passionné, c'est justement avoir, comme tu dis, des étoiles dans les yeux, ces étoiles, pouvoir les chercher, les sortir, hein, entre guillemets, à tout moment. Hein, ouais. C'est vrai que le passé, ça compte, le présent, hein, les étoiles. Moi, j'ai des étoiles dans les yeux le matin en me levant, pour plein de raisons, par rapport au projet que je mets en place, hein, dans ma vie professionnelle, par rapport aux ambitions que je peux avoir, par rapport donc à toutes ces idées qu'on peut mettre en place, ça me plaît, et aussi pour l'avenir, Hein, donc aussi, il faut que je me dise bon ben plus tard aussi, je vais pouvoir me régaler, en tout cas me satisfaire du moment. Toutes ces étapes de vie, ben elles correspondent au bonheur et pas s'arrêter justement à la nostalgie. Hein. C'est bien l'ancien temps, c'est bien. C'est vrai que ça construit, hein, ça rassure. Mais quand même, hein, le présent et l'avenir, ouais, ça compte, hein, c'est ouais, ça.
C'est là où il faut regarder, en tout cas. C'est là où il faut regarder. Et on est heureux tout de suite, quoi. On peut dire qu'on était heureux dans le passé, mais le meilleur moyen d'être heureux demain, c'est d'être heureux maintenant, je pense.
Oui, oui, oui. Généralement, on se souvient quand même, hein, même plus facilement des bons moments.
Ouais, c'est clair. Et tu disais que t'étais déjà compétiteur, que t'étais déjà passionné, et que t'as vu du coup ce prof qui l'a un peu vu en toi là. Mais t'aimais la compétition dans tous les sports, ou c'était particulièrement le judo parce que c'est un sport de combat et qu'il y a un duel, il y a un affrontement?
Alors non, tous les sports. C'est que ça m'a toujours plu, et justement j'ai longtemps à chercher le sport. J'ai essayé de mettre le doigt sur le sport qui me correspondait. Il faut savoir, je suis issu d'une famille où le sport ne compte pas. Hein, donc c'est pas j'ai pas un environnement sportif extraordinaire avec un papa et une maman à fond et tout, non, c'est pas du tout ça. Et du coup, j'étais pas aidé, donc j'ai dans cet accompagnement, j'ai hein, pour la petite histoire, mes parents ne sont jamais venus me voir en compétition. Donc c'est dommage, hein. Donc vrai que j'ai envie de dire, c'est presque tant pis pour eux, dans le sens où je pense qu'ils sont privés d'une joie, d'émotion. Incroyable, hein, quand t'as eu la chance de beaucoup gagner et quand tu te déplaces dans l'Europe, dans le monde entier, que ton fils gagne et gagne encore, ou même quelles que soient les circonstances. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage, hein. J'espère que moi j'aurai la chance d'accompagner, hein, de continuer. J'ai une petite fille de 2 ans, donc et du coup, si elle fait de la compétition, je serai là.
Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, mais c'est... Moi, mes parents sont toujours venus pour me voir, pour mes compètes et tout. Franchement, j'en aurais souffert là. T'en parles avec le sourire. Bon, ça fait longtemps, mais c'est dur, non?
Bah, disons que ça fait partie de la construction aussi. Hein. Donc, à un moment donné, moi, j'ai toujours été individuel. Hein. Donc, dans ma motivation, dans mes ressorts, dans ma volonté, j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Ouais. Donc ça veut pas dire que j'ai pas bénéficié d'un accompagnement, en tout cas de conseils, évidemment, hein, donc comme on dit toujours, on réussit pas tout seul, hein, donc il y a toujours une forme d'équipe, de belles rencontres, mais c'est vrai que la famille, la proximité de ces très très proches dans les événements qui sont en fait des événements majeurs, hein, que c'est hein, quand tu fais un championnat du monde, ben c'est quand t'as 25 ans, c'est ce qui est le plus important pour toi dans la vie. Ouais, il y a rien d'autre. Tu te lèves le matin, tu dis c'est ça, c'est le jour de ma vie.
Il y a que ça, ouais.
Et c'est vraiment dommage, c'est dommage.
Ouais. Non, mais je peux le comprendre. En plus, tu vois, dans le sport, il y a quand même une des valeurs fondamentales du sport, c'est le partage, et le partage de ces bons moments, c'est quelque chose de
exactement, oui,
de tellement fort. Et quand tu vois un champion gagner et que tu vois les émotions qui sont partagées autour, mais et t'as eu peut-être des personnes de substitution alors désolé, le terme est très moche, personne de substitution, mais est-ce que t'as substitué justement un peu ce d'avoir, je sais pas, un compagnon ou de route justement sur tes
j'ai des gens qui ont eu des mots, hein. J'ai ce monsieur Gros, hein, ce premier prof de judo, ce premier sport de sport qui était bienveillant, donc qui voulait hein, qui m'a incité à me défendre un peu, parce que faut revoir le contexte, hein, donc j'étais dans une école privée, la seule personne métisse, hein, donc mon papa du Bénin, maman blonde, donc voilà, j'étais il y avait une certaine différence, hein. Et c'est vrai qu'il a fallu un peu se bagarrer, hein, de temps en temps, et je sais que il m'a incité quand même à me défendre, hein, d'une manière implicite. Il m'a dit bon, quand on t'embête, il faut taper un peu, et voilà, comme c'est lui qui surveillait un peu la cour de récréation, aussi, il y avait un petit passe droit, un petit peu on se voyait, une petite connivence, on se regardait un peu, et j'ai envoyé le coup de poing, et puis bon, je n'étais pas sanctionné tant que c'était pour une cause juste, j'étais pas sanctionné, mais voilà, après j'ai donc si on parle dans les hein, mon premier prof de karaté qui m'a incité vraiment à travailler seul. Donc voilà, la notion, voilà, les petites choses comme ça. Mais sinon, effectivement, j'ai pas de mentor, j'ai des gens que j'apprécie énormément dans le karaté, notamment qui ont eu un rôle aussi de bienveillance, parce que bon, il y a des situations plus ou moins complexes parfois, mais c'est vrai que non, j'ai pas eu cette présence, hein, que de me dire tiens, mais lui il a toujours été là, toujours été à l'écoute après mes victoires, mes défaites, toujours le bon mot avant de partir en compétition. Non, il a fallu que je trouve les bons équilibres, les bons leviers pour justement y arriver.
Ok, mais j'aurais plein de questions là-dessus, justement, un peu sur la construction, un peu d'un comment est-ce qu'on se construit sans un rôle modèle, tu vois, comment on fait pour y arriver un petit peu seul. Mais peut-être juste avant ça, comment est-ce que t'es tombé dans le karaté, parce que du coup tu disais que t'avais cherché longtemps plein de sports avant de tomber sur le karaté, tu vois. Est-ce que tu peux raconter justement comment ça s'est fait et qu'est-ce qui a créé la flamme qui fait que ça t'a plus qu'un autre sport?
Alors j'ai tenté, j'ai joué au foot évidemment, j'ai toujours cette volonté d'atteindre un peu le haut niveau, et il manquait quelque chose, et je crois véritablement, quand on parle d'accompagnement, il y avait un certain stress, hein, je manquais de maturité en termes de gestion du stress. C'est-à-dire qu'en jouant au foot, je jouais très très bien au foot à l'école, mais dans le contexte un peu officiel, grand terrain et tout ça, j'étais moins bon. Okay. Et je pense à ça, alors que techniquement, quand je vois un peu ce que je suis devenu en karaté, je me rends compte que la coordination, le sens du combat, la vision et tout, je l'avais. Et je l'ai toujours. Du coup, j'ai essayé l'athlétisme aussi. Après, je manquais peut-être un peu de gabarit pour arriver. Et puis il y a l'adolescence aussi. Il y a des grosses différences, hein, hormonales entre les gens. Donc on n'est pas forcément récompensé. Il faut vraiment avoir cet accompagnement, pouvoir se projeter plus loin. Et voilà. Et puis j'ai même essayé de faire du kayak. J'ai dit en m'amusant des fois, j'ai dit à un moment donné, j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé, je me suis arrêté sur une page, j'ai vu kayak. Puis j'ai essayé. J'ai vu que les gars étaient. Moi, je suis plutôt fort en cuisse et tout. Donc j'ai nager aussi, entre parenthèses, ça fait penser à ça. Donc il y a des physiques quand même, hein.
Ouais,
donc j'étais un peu l'opposé des gens qui étaient dans le kayak, les kayakistes. Même si ça me plaisait quand même, cette ambiance, il y a une solidarité, il y a un côté nature, ça j'aime, hein. Ouais. J'aimais bien. Et puis kayak, karaté, c'est pas loin dans le dictionnaire. Et puis donc je suis allé ça fait longtemps, je pensais karaté, ça fait longtemps, je crois que j'avais envie de retrouver le kimono, hein. Puisque j'avais commencé par ça, à 17 ans, j'ai dit, tiens, je retrouve le kimono. J'étais pas poussé pareil à la maison, ma mère karaté, ça lui faisait un peu peur aussi. Donc voilà, à l'époque j'avais des cheveux. j'avais mon coiffeur qui faisait du karaté, et il m'a dit, tiens, j'ai un club et tout qui est sympa, et j'y suis allé. Et tout de suite, hein, tu franchis, tu t'es bien accueilli, il y a eu quelque chose d'assez presque mystique. Une ceinture noire, hein, parce que quand on rentre dans un club de karaté, de voir une ceinture noire sur le kimono blanc, ça impressionne. Et il m'a dit, c'est un bon sport, hein. La personne qui était là, c'est pas le prof, hein, mais un ami du prof, là, qui m'a dit, ouais, c'est un bon sport, ça vaut le coup d'essayer. Et puis j'ai jamais arrêté. Tout de suite, je m'entraînais à la maison, je répétais mes petits mouvements et tout, et j'ai eu accès à la compétition rapidement, et là j'ai senti que c'était mon truc. Ouais. Un mélange de, hein, je dis dans l'intensité, toi qui connais bien le sport, hein, un mélange entre le tennis de table et l'escrime, tu vois. Okay. La notion de point important, de toucher l'autre en premier, voilà. Donc tout ça, ça m'a convaincu, ça me correspondait.
Ouais, ok. Ouais, je vois. Et t'as tout de suite, tu sais, il y a les katas et le kumite. Toi, t'as tout de suite su que c'est un peu du combat et du duel que tu voulais.
Oui, ben. Alors ça, c'est le débat. Donc pour moi, le karaté, c'est d'abord du combat. C'est, on tourne comme on veut, c'est bien. Le concept karaté, c'est évidemment kata et combat. Moi, en tant que coach, hein, karaté aussi, hein, donc
tu transmets les deux.
Donc j'enseigne les deux, évidemment. Mais la base, hein, ceux qui ont créé ça, c'est pour le combat. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et du coup, évidemment, donc le combat, et puis bon, quand on a 17 ans, il y avait plein de choses, hein. Le combat correspond, il y a quand même, faut voir, il y avait pas, il y a des disciplines qui avaient, à l'époque, il y a des disciplines qu'il n'y a pas aujourd'hui. Le karaté représentait quand même une certaine il fallait être courageux pour faire du karaté. Il y a cette notion-là, le karaté. Il y avait un côté, alors virilité. Hein, donc à l'époque, hein, ça, on sentait quand même. On fait un sport différent. Cette opposition, cette notion chevaleresque, j'allais dire, pas du karaté. Non, donc voilà. Donc c'est, il fallait que ça m'incitait à faire la compétition et rapidement. Donc j'ai commencé la compétition.
Ok. Et ouais, t'as tout de suite su que t'avais envie d'en faire quelque chose d'en faire du haut niveau. Ça vient plus tard, c'est après les premières compétitions, ouais. Tu te laisses un peu porter, ça va tellement vite que tu le fais.
T'arrives à un moment donné, tu te demandes si t'as pas choisi le karaté pour faire la compétition. Bon, vraiment, tu vois, quand tu regardes, t'es tellement compétiteur dans l'âme que tu sais pas s'il y a pas un message subliminal qui t'a dit c'est là où tu pourras exceller, ouais. Et c'est là qu'il faut que c'est ce qu'il faut que tu fasses. J'ai toujours été récompensé en tout cas par mes après mes prestations, combat gagné ou perdu, j'ai toujours une base de travail, de réflexion, donc c'était très positif. Enfin, les premières compétitions, ça allait très vite, hein. J'ai rencontré des gens qui à l'époque était bon, hein, mais moi j'en tenais tête en gagnant ou pas, ça s'est bien passé. Alors, et pour la petite histoire, très rapidement, 3-4 ans après avoir commencé, j'ai l'équipe de France qui est venue s'entraîner entre guillemets à Lyon avant un championnat du monde. Donc j'avais, alors si on parle de rôle modèle, en tout cas, je commençais à suivre un peu les choses, et j'avais les représentants de ma catégorie qui étaient là devant moi, les gens que je voyais dans les magazines, j'étais là pour s'entraîner. Et en fait, ils avaient fait une sélection des meilleurs régionaux dont je faisais partie déjà pour faire du sparring avec les gens de l'équipe de France, match arbitré en fait, hein. Donc ils avaient fait ça bien, donc avec des vrais arbitres dans un stade et tout. Et là, j'étais pas loin. Donc je me suis rendu compte que j'étais, j'avais fait des bonnes oppositions, et ça m'a vraiment mis en confiance. Je crois que quand je les ai rencontrés, j'ai su que ça allait fonctionner. Okay. Que j'allais les rattraper. J'ai eu cette prétention, hein, et je crois qu'à un moment donné, il faut quand tu veux faire du haut niveau, quand tu veux réussir, hein, mais c'est valable dans tous les domaines, hein, que si tu veux réussir, il faut avoir cette ambition. Alors, hein, ambition, prétention, conviction. Mmh. Hein, c'est des mots forts, c'est ces mots-là qu'il faut répéter aux gens. Moi, je le répète toujours, hein, dans ma vie professionnelle, hein, que ce soit en tant que coach pour des karatékas, que ce soit pour des chefs d'entreprise, que ce soit pour des gens qui veulent découvrir une nouvelle discipline. Il faut diffuser ce message. C'est ça qu'il faut dire. Donc voilà. Donc j'étais convaincu que j'allais progresser, que j'allais certainement avoir une vie un peu comme eux.
Non, mais c'est marrant que tu parles un peu de prétention, d'ambition, parce que c'est souvent l'ambition pas forcément, mais peut-être la prétention un peu plus, ou l'orgueil, l'ego, ou tu vois, l'avoir l'envie de gagner, tu vois, c'est en France parfois c'est un peu tabou, et parfois on a tendance à le reprocher, mais comme tu le dis, je pense que pour j'ai vu aucun athlète de haut niveau ici sur ce podcast, tu vois, ne pas en avoir un peu, quoi. C'est impossible. Je veux dire, tu peux pas avoir envie de gagner, de performer si t'as pas
bien
ça.
Sûr.
Et je trouve que c'est hyper dur, même. Alors peut-être que toi tu l'as peut-être vécu différemment, mais je trouve que c'est très difficile de demander aux athlètes de gagner et de leur demander de rester le plus humble possible, tu vois.
Mais oui, bien sûr.
Et parce que quand tu regardes, tu vois, quand tu regardes des grands champions, tu vois, des Michael Jordan, des Teddy Riner ou des je sais pas, il y en a tellement, ou même un Usain Bolt, tu sens que l'ego est présent, tu sens que la prétention, l'ambition, l'envie, elle est là. Parfois ils sont un peu à la limite, hein, tu vois, mais ils l'ont tous, quoi. Ils l'ont tous, ça c'est vraiment un trait de commun que vous avez tous, quoi.
Bien sûr, parce que bon, à un moment donné, il y a cette notion, il faut dominer l'autre. Hein, il faut dominer. Donc c'est la règle du jeu. Hein, il faut être devant. Hein, donc que ce soit un chrono physiquement et ce combat-là, hein, cette opposition-là, elle commence des fois bien avant vraiment la compétition, hein, le coup de sifflet ou en tout cas le combat. Et effectivement, quand on parle du Usain Bolt, quand on parle des comportements d'avant, il y a une manière aussi d'impressionner les autres par son, entre guillemets, son arrogance, par son relâchement, par son attitude. En tout cas, l'idée, c'est d'impacter un petit peu l'autre. Et parce que il y a quand on est sportif de haut niveau et quand on est dans le contexte compétition, on est hypersensible. Hein, donc on est à l'affût de toutes les informations, hein, de toutes les faiblesses de l'autre, comme ses points forts. Et il faut résister par rapport à ça. Donc c'est vraiment il y a vraiment quelque chose de très animal, très animal. Et puis sur l'attitude, hein, c'est corporel, voilà, tout compte. Mmh. Et après, il faut trouver juste milieu. Mais ce que je dis souvent et ce que je crois, c'est qu'il faut être soi-même aussi. Ouais. Au bout du bout, il y a une seule vérité, c'est d'être toi-même, d'avoir cette ces connexions, hein, ces convictions, cette conviction. Elle est liée aussi à une préparation, elle est liée aussi à un schéma que tu construis au fil des années, souvent de l'enfance. Hein. Et donc du coup, je crois que à partir du moment où t'as compris qui tu étais, comment tu t'es construit, humainement, sportivement, et ben évidemment, tu peux te permettre d'avoir des attitudes qui peuvent paraître pour certains un peu borderline, mais parce que faut être en phase. Hein, si tu es en phase. Oui, moi j'ai pas de souci par rapport à ça.
Ouais, non, mais c'est vrai, faut que ça te corresponde, faut pas que ça soit joué. C'est ça. Effectivement, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, je me posais une question par rapport à ça, parce que là je te vois, t'es ultra souriant, très à l'aise, très charismatique. J'ose pas imaginer en fait un combattant. Tu vois, si je le savais pas, on se croiserait dans la rue, on parlerait 5 minutes à un café. Je dirais, mais non, c'est quelqu'un, à la limite, je sais pas, serait un très bon manager, un très bon commercial, quelqu'un qui a le sens de l'humain. Et j'imaginerais pas du tout cette part, tu vois, un peu de duel et d'ambition. J'ai l'impression qu'elle est très, peut-être pas camouflée chez toi. Alors, je sais pas comment t'étais sur le tatami, mais on voit quand même quelques photos, t'as le visage plus dur, plus fermé. Est-ce que tu te conditionnes quand même un peu pour ça, pour aller chercher peut-être pas de l'agressivité, mais tu vois aller chercher tu as cette envie de gagner, parce que tu vois là j'imagine que t'as pas envie de gagner contre moi, tu vois, on discute, on se marre.
Non, c'est je dois dire vraiment, tu vois, puisqu'on discute à bâton rompu, c'est super, hein, cet échange là il est bon, hein. Je te remercie encore, Bart, parce que ouais, c'est presque touchant de ce que tu me dis, dans le sens où quand tu encore une fois, il faut être soi-même, et il faut aussi être capable de sortir, hein, ce dont tu as besoin au plus profond de toi-même par rapport à ton objectif. Et je crois que j'en ai été capable, hein, et j'en suis encore capable dans d'autres domaines, hein, c'est-à-dire chercher je vais pas dire, c'est pas être contre nature, parce que ça serait pas en lien avec ce que j'ai dit précédemment, mais il y a une équipe des choses, une équipe des forces, et pour pouvoir justement lutter à armes égales, ta bonne humeur, ton intellect, ta façon de comprendre le combat, ta stratégie, tout ça, c'est important, mais il faut aussi avoir ce supplément. T'entends souvent, à ton café du rugby, on parle de supplément d'âme, on parle de tout ça, mais évidemment qu'il faut, à un moment donné, sortir, hein, il faut s'invectiver, et je pense que, voilà, moi, ce que j'arrivais à m'auto-conditionner, je me parle, hein, et même des fois, ma femme me dit, ouais, pourquoi tu parles, mais qu'est-ce que tu te dis, je me parle à voix haute et pour faire monter un peu la sauce, pour vraiment se rappeler, hein, le plan de bataille, hein, pour l'entendre, hein, de l'intérieur, il parle pour le entendre extérieurement, créer un climat. Mais c'est le combat, c'est la chance des sports de combat. Il y a combat dans chaque sport. Dans chaque sport, il y a du combat. C'est toujours du combat, quoi qu'il en soit. Il y a des critères qui sont toujours équivalents. Mais pour dépasser, pour être champion, il faut pouvoir sortir, hein, à ce moment-là, que ça soit à ce moment-là, il faut sortir le côté extraterrien, hein, c'est ça, extraterrestre. Il faut sortir ce côté parce que c'est ça la différence. Ce qui fait la différence, c'est cette capacité entre les gens qui gagnent ou qui gagnent pas, cette capacité de sortir, de tout donner, mais tout en étant mesuré. Ouais. Donc voilà, c'est une alchimie de plein de choses, mais il faut savoir se transformer un petit peu, hein, en tout cas, mais c'est intérieur. Et c'est l'intérieur, moi j'ai une phrase, hein, sort le combattant, hein, essayer de révèle le combattant qui est en toi. C'est quelque chose que je dis souvent, et c'est ça. Il faut chacun, on a cette capacité de sortir, hein, cette énergie, cette force, mais c'est vrai que ça demande des leviers, ça demande peut-être un peu de recherche, hein, carrément, hein, ouais. Mais du temps, Mmh. Et ça on rejoint la patience. C'est vrai que c'est facile quand on a fait 24 ans de sport de haut niveau. C'est facile à dire, mais voilà.
Non, mais c'est hyper intéressant et ça résonne beaucoup en moi, tu vois, tout ce que tu dis, même dans des choses très concrètes et très terre à terre. Quand tu dis que tu te parles, moi ça fait peut-être alors j'ai été obligé de le conscientiser, de le voir dans des livres, tu vois, de développement personnel ou de PNL, de programmation neurolinguistique, tu vois, de dire bah n'ayez pas peur de vous parler devant la glace et de vous envoyer des fleurs et puis de vous dire des phrases positives, encourageantes. D'une, c'est pas ridicule, et de deux, ça a énormément de vertu. Mais du coup, t'as parlé du fait que moi j'ai bien compris toutes les émotions, mais il y a d'autres choses que tu fais, tu vois, à part te parler, je sais pas, des routines que tu peux avoir autour de ça, justement.
Il faut se rassurer, hein. Donc on a besoin, hein. Donc ouais. Et il y a plein de manières de se rassurer. Alors moi, bon, il y a deux axes, hein. Il y a le jour J, le moment, hein. Donc il y a des petites choses, on se rattache à des choses simples. Moi j'avais une chose amusante, c'est que j'ai ma grand-mère qui était très superstitieuse et qui me disait que le rouge c'est la couleur. Donc pour la petite histoire, en karaté, quand on se présente, on est donc ceinture rouge, hein, donc on ceinture de club et tout ça, on les laisse à la maison. Ouais. On fait pas ça en ceinture noire. On est ceinture rouge ou ceinture bleue. Ouais. Donc hein, c'est pile ou face, on sait pas, donc c'est selon les tirages de sort, hein, selon quel tableau on se trouve. Par chance, j'ai souvent été, je crois que toutes mes finales de championnat du monde, j'ai souvent été ceinture rouge.
Okay.
Donc, j'étais rassuré à ce niveau-là. Sauf que, dans l'éventualité où je sois ceinture bleue, j'avais prévu, donc, je mettais ça, j'avais un ruban, bien sûr, confectionné et donné par ma grand-mère, que je mettais à l'intérieur, accroché à ma coquille. Hein, pour ceux qui connaissent pas, la coquille, hein, c'est donc la petite structure pour protéger un peu ses attributs. Donc, je mettais ça, j'accrochais ça sous mon kimono. Et du coup, voilà, j'avais du rouge sur moi. Donc voilà, donc moi j'étais pas superstitieux plus que ça, bon c'est déjà pas mal, hein.
mais merci de partager ce détail là parce que j'ai l'impression que c'est difficile de parler de ces superstitions et de ces petits gris-gris, de ces petits porte-bonheur, c'est difficile de s'ouvrir par rapport à ça, je trouve. Ouais. C'est hyper personnel, tu vois.
Oui, alors
t'aurais
voilà,
pu choisir une chaussette, j'en sais rien, ou un protège-dents, tu vois, ou des bandes pour les mains, tu vois.
C'est ça, voilà, parce que comme je dis, se rassurer, là, tu me dis, j'ai autre chose aussi, et ça, c'est un copain d'équipe de France qui m'a rappelé ça, ou non, c'est, en tout cas, il me dit, oui, quand je suis allé passer, donc, mon 7e dan, il me dit, t'as pris un kimono neuf? J'ai carrément oublié que avant chaque compétition aussi, hein, important, chaque compétition, j'avais toujours un kimono neuf. C'est que je sortais, c'était pour moi un luxe, c'est-à-dire que je préparais mon sac de sport, j'avais plusieurs kimonos en genre tennisman, tu vois.
Ouais.
J'avais et je sortais, mon kiff, c'était d'ouvrir mon sac et de sortir mon kimono du paquet, du paquet plastique, d'enlever l'étiquette et tout et le mettre. Et donc voilà, c'est le deuxième truc qui me disait voilà, je fais peau neuve, en tout cas j'arrive avec le matériel, la tenue du gagnant, voilà, c'est ça. Et donc voilà, après la meilleure façon de se rassurer, hein, c'est dans la préparation, hein, c'est-à-dire que en amont, moi j'ai toujours été quelqu'un qui me suis beaucoup projeté. Ouais. C'est-à-dire que si on parle préparation psychologique, qu'est-ce qui me faisait, bah je visualisais beaucoup, donc sur plan technique, hein, je visualisais, je savais à peu près, je connaissais tous mes adversaires, je répétais des actions éventuelles et je me projetais dans l'avant, l'après, le pendant, la compétition, donc j'étais hyper armé. Mmh. Donc sur plan visualisation, j'ai des exemples comme ça où j'ai prévu telle action, le gars me faisait exactement ce que j'ai prévu dans les 10 premières secondes du combat. Il me disait mais il est fou lui, il est fou. Et donc j'ai des gros résultats sur ce genre d'action là comme ça. Et puis le fait je suis sensible aux ambiances, au climat, hein, quand je voyageais dans le monde entier, j'aimais sentir les rues, les gens, donc et pareil, il y a une atmosphère d'avant compétition, d'avant combat, la veille, donc ça je le répétais au quotidien, je me voyais en finale des championnats du monde et puis je me voyais les 30 secondes avant qu'ils nous disent qu'ils nous appellent. Hein, on est dans un sport de il y a une incertitude à quand exactement on va t'appeler pour combattre par exemple et donc il faut comment tu te comportes. Tu peux très bien être super préparé et puis finalement les 2 minutes avant de monter sur le ring, ça y est, on t'a coupé les jambes ou alors on t'appelle, t'es pas prêt parce que t'es pas en posture. Ouais. T'es en train de regarder ton sac, on t'appelle combat. C'est maintenant, mon gars. Et là, donc, je crois que j'avais un protocole de sérénité, de qui me permettait de pas trop m'engager dans une voie, rester bien focalisé à partir du moment où, hein, je dis les choses bêtes, mais tu quittes l'hôtel pour aller au stade, t'es dedans. Mais même si t'es déjà dedans, mais t'es dedans différemment. Et quand tu rentres dans le stade, t'es dedans quand même. Hein, c'est voilà. Et tout ça a fait que j'ai été peu surpris hein, il y a eu des erreurs justement, ça parle le coup, il y a des coups, il y a des endroits où les moments où justement tu es dans une salle, on croit que t'as voulu t'isoler et puis finalement non. Et finalement voilà, on t'a appelé, t'es arrivé en stress, ça arrive à tout le monde, mais justement pour éviter ça, j'avais mis les choses en place,
le protocole. Ouais. Ouais. Mais c'est merci d'en parler parce que je trouve que c'est un outil qui est formidable, le protocole. Tu vois, ça fait peur à tout le monde. C'est contre la routine, c'est peut-être pas joyeux, mais en fait, ça te permet de concentrer ton énergie et ton attention sur ce qui est vraiment important. Et toi, tu savais qu'effectivement, peut-être les 24 heures avant, il faut être en mode un peu de pilote automatique pour que justement tu puisses avoir l'énergie de visualiser ton combat, que tu puisses ne rien oublier, être bon et vraiment être à 100% à l'instant T.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je trouve qu'en tout cas, pour avoir rencontré pas mal d'athlètes de haut niveau, il y en a beaucoup qui le négligent un peu, peut-être, tu vois, cette partie protocole de, quitte à aller, je sais pas si toi tu l'as écrit sur papier, si tu en as parlé, si c'est quelque chose que t'as pensé, ou c'est devenu assez instinctivement. Moi, je sais que j'ai besoin d'écrire sur papier, tu vois. Mais j'ai exactement pareil pour le podcast, tu vois. Je sais que j'ai besoin de venir un petit peu en avance, de mettre mon matériel. J'ai une petite liste avec, pour être sûr que j'oublie rien le matin. Je vais toujours recharger mes piles, juste pour me rassurer 15 minutes avant, tu vois, et j'ai toute cette petite liste. Alors maintenant elle est automatique, ben c'est normal parce que ça fait 100 interviews, tu vois, mais ça me détend. Et là aujourd'hui, tu vois, ben je suis content parce que je suis là, tu vois, train de stresser sur quoi que ce soit. Alors faut que je vérifie mes petits trucs et tout, mais c'est normal, ça fait partie du job, mais c'est fou à quel point c'est puissant, je trouve, cet outil pour vraiment se concentrer après sur vraiment ce qui est clé.
Mais c'est exactement ça. Alors on va faire un petit aperçu un petit peu là. On parle karaté, budo, hein, quand même aux origines. Donc c'est préparer la guerre, hein, préparer la guerre. Et pour préparer la guerre, il y a un protocole. Donc si je parle du karaté, le protocole, c'est de se mettre en place, hein, donc d'avoir une attitude, une posture satisfaisante, d'être prêt, d'être relâché, etc., et d'être prêt à s'engager. Et on voit déjà à la base, pour un enfant, hein, qui fait du karaté, il connaît, il salue le tapis avant d'entrer sur le tapis. Ça veut dire que déjà il rentre pas n'importe comment, il y a pas de précipitation, il y a quand même du contrôle, hein, au-delà des c'est la première raison. Il salue le tapis, il arrive au milieu, hein, il se met en position yo, ses jambes, les pieds légèrement écartés. C'est une position qui te permet de tout faire, de recevoir un service de tennis, de faire un grand discours. C'est une position naturelle. Vous voyez, une position d'équilibre. Ça, c'est la base de la vie, la base de la performance. Pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord, hein, le fait d'anticiper, d'avoir un programme un petit peu pour les moments importants. Mais c'est ça, c'est important. Demain tu rentres dans ton avion, tu fais le check-up et tout, c'est normal pour bien réussir. Donc c'est vraiment la chose qu'il faut faire pour bien réussir. Et j'irai plus loin pour parler compétition. Il y a différents types de profils, hein. Donc, j'ai envie de dire, il y a plein de types de champions. On peut y arriver par plein de manières possibles, mais quand même, moi, j'apprécie quand les choses sont construites. Ça veut dire que t'es beaucoup plus satisfait. Il y a pas de hasard, il y a pas de dire tiens pourquoi comment. T'as construit ta victoire. On va parler des tableaux. Je sais pas. Bon, je pense qu'en tennis, c'est un peu la même chose, mais dans beaucoup de sports, moi, j'ai des camarades d'équipe de France qui regardaient pas les tableaux. Alors, je vais pas dire qu'ils sont moins, c'est des moins grands champions, mais moi je trouve que quel plaisir d'analyser les tableaux. Les tableaux étaient en gros, si je combattais le samedi, les tableaux étaient édités le mercredi à 23h. Moi j'allais à l'hôtel officiel voir les sorties des tableaux et je me disais, eh ben c'est bien, je vais avoir une nuit de plus pour réfléchir. Pour moi, d'être premier combat de la compétition ou troisième combat, c'est pas la même chose. Qui je rencontre en premier, c'est pas la même chose non plus. Donc je me préparais vraiment pour ça et j'ai toujours inculqué en tout cas à mes élèves, en tout cas à mes disciples, cette règle-là quand même de regarder les choses en face. Et de ce que tu faisais allusion quand t'es sportif et que tu es un peu dilettante sur cette préparation, c'est une forme d'abandon. Quelque part, c'est que tu regardes pas les choses en face. Alors peut-être que tu y arrives hein, comme ça, mais en réalité, parce que de regarder les choses en face, c'est anxiogène. De regarder les choses, quand tu vois que tu tapes, et ça m'est arrivé hein, sur un championnat du monde, de voir que t'as le vice-champion du monde, le champion du monde en titre, le champion d'Europe, t'as tous les cadors de ton côté, et que tu sais que c'est le champion du monde pour toi, et que tu te présentes, tu te lèves le matin... T'as intérêt à être costaud et justement hein, donc
ça fait peur. Hein.
Moi j'ai un de mes mentors si je peux le dire comme ça, donc Serge Ouraki pour pas le citer, grand monsieur du karaté, et il était là hein, donc c'était Kota Kinabalu, mon premier titre de champion du monde. Le matin, il me dit bon, j'ai vu ton tableau hein, donc si t'es si t'es champion du monde, t'es vraiment champion du monde. Et je crois que c'est ça le truc hein. Mais bon, j'avais imaginé, j'avais ma bête noire premier tour, ma bête noire, le gars que j'ai toujours du mal à battre et tout, je l'avais, donc il fallait passer. Donc c'est ça, il faut moi j'incite les gens à voir les choses en face, se préparer et puis voilà, et puis respirer et puis on y va.
non et puis même tu vois, sur d'une manière générale en fait, la préparation, ça paye toujours, tu vois. Certaines personnes ont peut-être un peu plus de talent, un peu plus de chance, un peu plus de vista, un peu plus d'instinct, mais la préparation, peut-être que ça marchera pas une fois, deux fois, trois fois, mais sur le long terme, ça paye toujours. Ça, c'est quelque chose.
Et la non-préparation, en tout cas, elle sera forcément sanctionnée un jour ou l'autre.
Ouais, hein,
ça, c'est sûr et certain. Et donc, on voit donc les protocoles. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a des conseils à donner aux jeunes.
Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent.
Jamais changer ses habitudes. Ouais. Jamais changer ses habitudes quand on a un protocole un fonctionnement qui marche hein, évidemment hein. Pas changer. Moi j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté des titres mondiaux hein. Moi j'ai fait une erreur incroyable hein, sur un championnat du monde où je suis champion du monde en titre. C'est que je suis champion d'Europe, je suis double champion d'Europe, j'ai tout gagné. Je suis invaincu depuis 2-3 ans. Donc j'arrive en grand favori, j'avais une emprise sur mes adversaires, un truc de fou, et je sais pas pour quelle raison, un manque de lucidité, un abandon en fait, hein, un abandon, hein, ma faute, hein, un abandon. Je prends une boisson énergétique nouvelle, je prends ça après la pesée, juste avant de combattre. Je me retrouve en hypoglycémie toute la compète. Je m'arrache à arriver en demi-finale, ce qui était pas mal, mais et puis en demi-finale je suis au bout du rouleau, donc je perds et puis voilà, et donc grosse défaite, grosse désillusion. Et franchement voilà, c'est dû à ce changement d'idée, et voilà, donc maintenant fort de cet échec cuisant, et ben voilà, pas de changement.
Ouais, t'as raison. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je sais pas, est-ce que tu connais moi j'ai lu pas mal de biographies aussi d'entrepreneurs ou peut-être de gens qui sont un peu plus dans le business, tu vois, parce que c'est ce qui m'intéresse forcément, c'est mon métier. Et mais typiquement moi j'avais il y a beaucoup d'entrepreneurs ou en tout cas de gens qui ont réussi un peu plus sur la partie professionnelle, qui ont mis des choses comme ça un peu en place. Tu vois, il y a des mythes, par exemple sur Mark Zuckerberg, du coup, qui est le fondateur de Facebook, qui s'habille tous les jours exactement pareil.
Parce qu'en
fait, on peut pas perdre. Lui, son rôle, c'est de prendre. Il dit que son rôle, c'est de prendre beaucoup de décisions. Que s'il perd une décision dans sa journée à choisir comment il s'habille, et ben en fait, il a perdu une de ses décisions. Tu vois. Et il y en a plein des petits exemples sur le protocole
sûr.
Habitudes et tout. Mais moi, je suis curieux de savoir aussi comment est-ce que tu l'as construit un petit peu ce protocole. quand je t'entends, en fait, j'ai l'impression que t'as eu l'intelligence sociale et même l'intelligence tout court, tu vois, d'être capable de prendre un peu le meilleur sur plusieurs personnes que t'as rencontrées et à chaque fois de passer les paliers, tu vois, avec les différentes rencontres que t'as fait. Est-ce que tu vois du coup t'as intellectualisé un petit peu par exemple tu vois toute cette façon d'apprendre et cette façon de progresser, cette façon de se construire. Peut-être que maintenant tu l'as beaucoup plus que peut-être compris qu'à l'époque. Déjà dis-moi si je me trompe par rapport un peu à l'analyse que j'en fais un peu rapide mais je beaucoup, veux pas rentrer hein. dans le
non mais c'est exactement ça que j'ai beaucoup intellectualisé les choses carrément complètement, ça veut dire que sur le plan, comme je te dis, tout ce qui est tout l'environnement, que ce soit la gestion stratégique, tout ça, oui, énormément. Il y a eu beaucoup de réflexions et je pense que toujours, c'est ce qui fait un peu ma différence, un petit peu hein, avec même la façon de transmettre, ce qui c'est l'évolution même de mon sport. Moi, j'ai pris une direction. On va dire personnel d'entrepreneur hein, de chef d'entreprise aussi hein, quelque part, mais c'est vrai quand je regarde un petit peu le haut niveau je me dis que justement ça il y a des directions qui ont pas été des options qui ont pas été prises et l'évolution du karaté sur plan stratégique par exemple hein, c'est pas forcément ça il y a eu je crois que ça m'a permis d'arriver à mes fins et pouvoir aussi rester longtemps et pouvoir justement réaliser quelques exploits quand même sur la partie intellectuelle. Je pense que mes victoires en championnat du monde, mes comebacks, ils sont surtout liés en tout cas à ma façon d'appréhender les combats, à la compétition, qu'à des capacités physiques extraordinaires. Ouais. Je les ai aussi, mais bon, au bout d'un moment, on les a tous, on va dire. Hein. Donc on va faire preuve d'humilité. Je crois que on les a tous. Il y a des gens qui ont plus de capacités, plus de qualités. Mais dans les sports d'opposition, la plupart des sports, je mets un peu l'athlétisme de côté parce que je pense qu'en athlète, quand t'as pas la qualité, hein, le séquentiel, tout ça, tu peux pas. Alors que il y a quand même des sports où la technique font la différence et évidemment le poids des années, ça va compter. Donc oui, évidemment que. J'ai beaucoup pensé.
Ok, mais c'est hyper intéressant. Et justement là, tu parlais un peu de ta nouvelle vie. Il y a des outils justement de ta vie de sportif sur la performance que tu réutilises. Alors ça peut être soit des outils concrets, tu vois, que t'as lu ou que t'as appris, mais ou des outils que toi-même t'as construit, se parler dans la glace le matin ou je sais pas, mais peut-être si tu peux juste redresser un tout petit peu le micro. Ouais, super.
Donc du coup, évidemment, on a parlé déjà de, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses, donc c'est transmissible, hein, toutes ces choses-là, effectivement. Et puis bon, il faut être capable de s'adapter. Alors je crois que la plus grande qualité en tout cas qui a été développé hein, qui et le lien qui est entre le monde hein, de l'entreprise et le sportif de niveau, c'est d'être capable de s'adapter. Ouais. Donc je crois que moi je m'adapte hein, j'adapte ma structure ben aux exigences du monde moderne, on va dire hein, et puis je peux adapter sur plan individuel pratiquement faire du sur-mesure hein, c'est-à-dire aux exigences de mes clients. Il faut être évidemment qu'il y a des choses qui sont totalement réplicables hein, comme on disait hein, c'est une notion de protocole faire un peu le point sur ce qu'on fait comment on sent ou ce qu'on fait mal ou ce qu'on fait pas forcément bien et puis la notion quand même ce qui revient aussi c'est quand même voilà on est là aussi pour ça par les sports et c'est vrai que t'as des gens qui sont pas habitués à avoir cette rigueur sportive cette régularité sportive et le fait d'avoir déjà de venir nous voir nous parce que c'est ce qu'on donne en priorité c'est important. Ouais. Ça aide de pouvoir se dire tiens oui je vais me dépasser ne serait-ce je vais faire comme lui je vais m'entraîner tous les jours. Donc non mais oui il y a des attitudes en fait à dupliquer à transmettre et surtout dans le combat il y a un moment il faut faire face.
Ouais, je suis d'accord. Je change un tout petit peu de sujet. C'est un sujet qui est assez lié, mais parce que j'ai encore une fois, je te vois tout sourire, vraiment J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi passionné, tu vois. Alors peut-être que je me trompe et peut-être que c'est pas facile tous les jours, mais tu vois, j'avais lu que t'avais été un des champions du monde les plus âgés à l'époque où t'as eu ton titre, même le plus âgé d'ailleurs. C'est toujours.
Oui, c'est toujours.
Ok. T'as récemment obtenu ta septième dan, tu vois. C'est la dan ultime, il me semble.
Voilà, oui, c'est le dernier grade que l'on passe devant un jury.
Devant un jury, ok. Et donc bon, je vais creuser un peu sur la partie technique là-dessus, mais comment est-ce que tu fais pour garder autant de plaisir et autant de motivation dans le temps, en fait? Là où justement peut-être que je te gêne, c'est sur la notion effectivement de plaisir et de tu vois, quand t'as tout gagné, que t'es champion du monde, comment est-ce que tu peux te dire, allez, encore une fois, comment est-ce que tu prends toujours du plaisir à l'entraînement pour, parce que c'est ça aussi, je pense, un petit peu le secret, c'est de prendre toujours autant de plaisir sur le chemin, tu vois.
Vraiment.
Ou est-ce que ça, c'est quelque chose que typiquement que t'as intellectualisé, qu'on parlait intellect, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses là-dessus, parce que c'est tu vois, il y a plein d'athlètes qui terminent leur carrière et qui se disent plus jamais, oui. Ou j'arrête, qui changent parce qu'ils en ont peut-être trop fait. Toi, on voit qu'il y a une pure passion, mais comment est-ce que t'entretiens cette passion?
Bah déjà, il faut que le bénéfice, en tout cas le bénéfice participation, hein, parce qu'on parle compétition, participation, effort, etc., soit positif, hein. Il faut qu'on sorte satisfait de l'opération et entre guillemets, et voilà. Donc c'est vrai que la partie entraînement, quand on a fait ça si longtemps, eh bien on a déjà beaucoup d'acquis, donc il y a beaucoup de raccourcis qui peuvent être utilisés, donc on n'a pas besoin de répéter, de trop apprendre, hein, même si on en apprend tous les jours. Mais je crois que l'effort, c'est plus une recherche on va dire, c'est pas spirituel, trouver le relâchement, trouver les bons ressorts, le bon moteur pour avoir cette motivation le jour J, hein, pour pouvoir y aller. Et puis un petit peu quand même, parce qu'il faut quand même faire un petit peu d'effort quand même pour se projeter en compétition. Il a fallu un petit peu pousser, tirer un peu sur la machine. Mais je crois que c'est l'humain qui fait. J'aime ça. Je suis passionné par mon sport, donc je suis passionné par le développement et évidemment. Donc c'est bien de rester lié à ça. Après, il y a plein de choses qui font que quand on fait la compétition, quand on reste athlète de haut niveau, quand on peut encore se mesurer au petit jeune, on reste jeune. Hein, donc il y a quand même un côté éternel, inoxydable, qui est pas désagréable. Ouais. On apprend, finalement, on apprécie mieux les choses. Moi, quand j'ai donc été champion du monde à 36 ans et j'ai fait des compétitions encore longtemps après, donc ça veut dire que j'ai arrêté à 42 ans, hein, donc la compétition, donc pour voir les choses. Quand je m'échauffais et je me disais, je voyais les gars de 25 ans en train de se chauffer, je disais que c'est quand même bon, c'est bon ça d'avoir ce privilège, ce luxe, et je suis pas certain que qu'ils apprécient, les petits jeunes apprécient comme moi. Donc je crois qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, ils apprécient, les jeunes, ils apprécient pas comme moi, et apprécient d'être champion. Moi, j'ai fait en sorte aussi de beaucoup, je t'en parlais avant, apprécier, savourer les ambiances, savourer les moments, les instants. Avant, après, monter sur podium. Hein, je montais pas n'importe comment sur podium. Je fais un bond de kangourou sur podium. Hein. Je fais un bond et j'arrive les deux pieds sur le podium. Et là, c'est l'explosion. J'avais les deux bras en même temps, là, au ciel, presque au ralenti. Hein, je me précipite pas parce que je sais que ce moment, c'était le dernier. Et ça, je me suis toujours dit. Tu étais champion, t'es number one, hein, quelle que soit la compétition. Bah, à ce moment-là, ça peut être le dernier. Donc, c'est la dernière fois. Donc, j'apprécie, j'aime.
Ouais.
Voilà ce qui m'a fait revenir. On parlait aussi le contexte, hein, de revenir. Normalement, quand on est en équipe de France, quand on nous dit que c'est fini, c'est fini. Et voilà, on va parler prévention. À moi, on me dit pas c'est fini. Voilà, il y a un peu ce côté révolte, la résilience. Je suis un privilégié parce que souvent j'avais cette possibilité de pouvoir continuer ma carrière et surtout l'arrêter quand je voulais. Et ça, c'est une chance inouïe.
Ouais.
Donc tout ça conjugué fait que j'ai pu faire ça, j'ai pu bien le faire. Ça a été plus ou moins interprété, plus ou moins bien, mais finalement bien, parce qu'au final, tout le monde est content de mon résultat. J'étais champion du monde avec la France, champion du monde avec le Bénin. Ouais, c'est une très belle histoire. Et ça a été, mais ça a été construit par la passion, par le travail, et voilà, pour la gestion, les émotions.
Ouais. Ouais, okay.
Donc c'était parfait.
Ok, ouais, bon, je précise juste effectivement ouais, pour les auditeurs parce qu'ils aient un tout petit peu le contexte que j'ai et que eux n'ont peut-être pas, mais du coup effectivement comme tu le disais, l'équipe de France t'a un peu fermé les portes parce que pour des raisons d'âge, si j'ai l'impression, plutôt que de performance.
D'environnement, de oui, ce que je dis toujours, hein, donc le problème hein, dans le sport de niveau, c'est pas simplement les adversaires, c'est pas simplement, il y a aussi un contexte relationnel, contexte humain où finalement les coachs, tu te retrouves à 35 ans, je veux dire, tu te retrouves à 30 ans avec des coachs qui ont 38 ans. Donc il y a quand même un peu d'opposition, c'est pas facile. Ils ont besoin aussi d'exister. On est dans un sport amateur où je dis durement, mais où les seuls professionnels, c'est les entraîneurs. Et ça c'est un problème. C'est un problème qu'on retrouve dans le judo et dans d'autres sports. Sport amateur. Mais les pros, eux, restent à vie, quel que soit le résultat. Il y a très peu de turnover, et ça peut aussi donc inciter. En gros, ils avaient besoin de renouveler un petit peu l'équipe. Et quand t'as un gars qui bloque une catégorie pendant 10 ans, donc ou 15 ans, ben c'est pas stimulant pour un manager. Donc voilà. Donc il fallait changer. Donc il y a eu des petites blessures, des petites choses qui ont facilité les choses, et notamment la défaite dont je te parlais avant, qui a créé hein, cette possibilité. Mais au final c'était pour la bonne cause, puisque j'ai pu faire ce que je voulais derrière, et ça m'a vraiment ouvert d'autres horizons, ça m'a une autre façon de gagner aussi, donc voilà. Donc vraiment je suis très content que les choses soient passées comme ça.
Ok, et peut-être juste mini question logistique, parce que du coup tu as fait de la compétition avec le Bénin, et que quand tu es à ce dernier titre de champion du monde, justement tu portes les couleurs béninoises, qu'est-ce que ça implique tu vois, à l'époque, est-ce que tu dois y vivre? Est-ce que
non.
Je crois que tu vivais déjà à l'étranger à l'époque.
Oui. Donc moi j'ai fait un petit passage en Suède là, donc petit passage assez important, 10 ans. Donc effectivement, je vivais en Suède en fait. Déjà il y avait ce côté loin du cœur. Hein. C'est vrai que je vivais déjà à l'étranger, donc c'était pas facile relationnellement par rapport à ça. Donc j'avais construit cette indépendance, je m'entraînais, donc je faisais mes résultats point final. Et puis le jour où j'ai fait un peu moins de résultats, où j'étais un peu blessé, et puis il y a des moments hein, dans une vie sportive où on est toujours très bon. Mais il faut trouver les bons mots, et là c'est là où peut-être j'aurais eu besoin d'un super conseil, du super accompagnateur. L'accompagnateur que j'aimerais, j'espère en tout cas, ouais. Et en tout cas une personne qui puisse dire, comprendre un petit peu tout ce que j'étais. Et donc voilà, donc je suis parti, et il fallait à l'époque avoir un laps de temps quand même, il fallait de laisser 2 ans ou 3 ans sans compétition internationale pour pouvoir avoir le droit de changer de nationalité, hein. Donc moi mon père étant béninois, j'avais donc le passeport béninois. Donc il y avait pas de difficulté.
Ah, tu dois quand même attendre 2 ans, quoi.
Oui, En gros, c'est ça, donc j'ai fait, je suis revenu.
Tu te rends compte de la force qu'il faut? Attends, on te dit que t'es un peu trop âgé et que on te le fait comprendre et qu'il faut et que du coup tu peux plus conquérir, tu vois, pour la France. Et toi, le seul moyen que t'as de faire de la compétition, c'est de changer de nationalité officielle et de fédération. Mais tu dois attendre 2 ans et ça te freine pas, tu vois. Enfin, c'est dingue, tu vois. Il y en a plein qui seraient dit, bon, j'attends pas 2 ans, j'ai plus l'âge j'ai pas la patience, tout ça pour ça. Et puis au pire, enfin, tu vois, j'ai pas l'équipe de France, je l'aurai ou je reviendrai. Tu vois, il y a plein de gens qui auraient pu avoir un souci d'ego et se dire, grave, je vais leur montrer, tu vois. C'est dingue quand même ce pari, tu vois. Moi, je trouve ça.
C'est vrai. À côté de ça, c'est vrai que je suis jamais revenu. Je suis jamais revenu au championnat de France pour regagner ma place. J'ai senti que là, j'avais peut-être plus la force, hein, plus l'envie, la force de revenir sur un championnat de France. J'avais les moyens, vraiment. Donc là, ça, je l'ai plus senti.
Ça faisait trop de compétition, ouais. Parce que
ça faisait
l'ambiance.
Non, j'ai dit non pour ça. Et ça me plaisait le contexte, hein, le contexte Afrique. Il y avait quelque chose de nouveau, stimulant. Sur le plan personnel, j'avais un rapport lointain avec l'Afrique. C'était l'occasion pour moi d'aller découvrir le Bénin.
Ouais.
faut voir les choses, hein. Donc j'étais aussi investi d'une mission, hein, par rapport à ça. Il y avait des, donc j'ai passé des bons moments là-bas, hein. Donc j'ai effectivement, pour l'histoire, j'ai fait donc un championnat, donc plusieurs championnats du monde pour eux, mais j'ai aussi participé aux championnats d'Afrique qui ont lieu à Cotonou, donc au Bénin. Et en termes de victoire, il se trouve que là j'ai fait donc à 42 ans, si je me trompe pas, oui. Et donc j'ai participé donc au championnat de France et d'Afrique dans les mêmes conditions. Donc en gros, il m'appelle, hein, donc est-ce que c'est au Bénin, est-ce que tu veux faire un comeback et tout. Bon, et pourquoi pas. Et donc c'était quand même 6 ans après quand même le dernier les mondes, quoi. Donc même si j'ai gardé un peu la forme, il fallait y aller. Et pour le coup là, il fallait se remettre en condition, au régime, etc. Et quand je suis arrivé là-bas à peu près 10 jours avant la compétition, j'ai vu que c'était la révolution. J'ai vu qu'ils avaient loué un hôtel pour toutes les équipes nationales. Ils m'attendaient comme le Messie. Il y avait quelque chose d'extraordinaire entre les générations. J'ai le souvenir des veillées le soir, le soleil se couche tôt là-bas, que c'est la veillée le soir où on parlait karaté, anecdotes. Ils étaient les gamins, ils m'écoutaient. J'aurais fait du bien, mais aussi, hein, vraiment, il y avait une sérénité. Et puis il y avait ces échéances là qui arrivaient. Et il fallait gagner, hein. En plus, après coup comme ça, il fallait se taper les jeunes. Et le niveau Afrique était proche du niveau championnat d'Europe, hein. Donc ça s'est bien déroulé. C'était à la maison, il y avait une ambiance de fou. C'était une sorte de championnat du monde. Okay. Donc c'était aussi extraordinaire.
Ouais, ouais, donc c'est. Enfin, il y a encore plus de notions de plaisir, quoi. T'es en
oui,
découverte.
Oui, oui, oui. J'ai toujours besoin de construire autour des climats, hein, quelque chose de favorable, de l'amitié, la collaboration, les copains. On peut parler des copains de l'équipe de France, les copains de l'équipe du Bénin. Donc il y a toujours quelque chose de particulier. Et j'ai même envie de dire les copains, la planète, parce que moi j'étais très international dans mon approche des compétitions, et j'ai toujours été un peu celui qui parlait aux étrangers, ce qui n'était pas du tout le cas en équipe de France. L'équipe de France était l'autarcie, on faisait pas de compétition, on restait à la maison, on s'entraînait dans son coin, on gardait nos techniques secrètes, on parle pas à l'ennemi. Et donc ça, j'étais assez précurseur à ce niveau-là sur mes copains. C'était les Anglais, c'était les Hollandais, c'était donc un peu tout le monde. Donc okay. Ça, c'était cool.
Ok, mais génial. Mais et la passion, ça se partage. T'as bien raison. Et le temps file, va très vite. Ouais, et donc c'est plutôt cool. C'est bon signe quand ça passe très vite. Mais je te disais en intro que j'aurais beaucoup aimé parler de ton passage de cette 7e Dan.
Oui.
Comme je te disais, il y a un côté vraiment mystique, tu vois, sur les Dan au karaté, mais aussi dans d'autres sports de combat, au judo, tu vois, mon père a fait beaucoup de judo, donc je connais bien aussi. Et pourquoi est-ce que tu fais ce choix de la passer? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que c'est vraiment je sais pas le grade absolu pour je sais pas le respect éternel du karatéka?
En fait,
c'est quoi les raisons, ouais,
un peu. Oui, la raison, alors, c'est vrai qu'on a selon les profils, hein, donc il y a un peu de différence, je vais pas dire d'injustice, hein, selon avec mon palmarès, j'aurais pu demander à la fédération de me nommer un 7e Dan. Okay. C'est ils le font aussi, et sur le mérite sportif en tant qu'homme, en tant que karatéka, moi je voulais absolument passer l'examen. Je voulais passer devant un jury, parce que le jury est composé quand même des experts, hein, donc moi aussi je suis expert fédéral, mais des plus vieux experts, on va dire, hein, donc des gens qui ont 75 ans, hein, qui ont 70-75 ans, qui sont vraiment là depuis longtemps, qui ont tout mon respect, et j'avais besoin de cette confrontation. J'avais besoin de ça. J'avais besoin aussi de c'était un challenge qui est présenté, donc pourquoi ne pas le prendre, hein, c'est toujours bon. et voilà, donc c'est le dernier grade que l'on passe devant un jury, et ouais. Donc c'est normal que moi, Dame Edovi, champion du monde ou pas, je sois là, et je crois que ça a été apprécié aussi par les autres candidats qui passaient avec moi. Et donc j'ai une grosse satisfaction, parce que il y a une recherche, hein, donc il y a un mémoire à préparer. Donc ouais. Moi j'ai fait un mémoire donc qui correspondait hein, de là je parle de mon parcours hein, de la compétition à la transmission. Donc c'est voilà, je raconte un peu ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui hein, un peu donc de synthétiser mais c'est ça et après donc il y a donc une démonstration technique qui explique ce que tu vaux hein, ce que tu sais faire en karaté, ce que tu as appris. Ça peut être ce que tu as appris ces 30-40 dernières années. Ce que représente le karaté pour toi. Donc voilà, donc c'était cette démonstration et tout. Et donc voilà, c'est tout un symbole. C'est il y a un côté donc c'est tout en c'est à huis clos. Ça veut dire qu'il y a le jury et toi.
C'est 7 personnes dans le jury, c'est ça?
En l'occurrence, il y a plusieurs t'as 3 personnes.
Okay.
T'as 3 sur une chaise et c'est avec eux que tu fais ta démonstration, tu as un échange verbal sur ta thèse. Hein, donc voilà, bâton rompu, on parle karaté, donc c'est bon, c'est bien. Et on parle passion, donc c'est très bien. Voilà et puis derrière donc il y a une petite cérémonie aussi très donc c'est bien, c'est vraiment un passage, bon je dirais un passage obligé. À un moment donné il faut quand même savoir être là, savoir passer les choses comme tout le monde hein, il y a pas de passe droit à avoir, il faut et puis c'était un petit peu stressant quand même hein, mine de rien il fallait gérer ses émotions, c'était pas une compète mais il fallait être envie de bien faire les choses donc voilà et donc comme c'est à huis clos, nous, hein, avec la collaboratrice, on est toujours plein d'idées, toujours plein de dynamisme, et ça nous a donné un peu l'idée aussi de partager. Hein, donc, on est en train dans les différents projets de se dire comment partager, comment mettre en scène ça, comment transmettre, comment parler de ce passage, et c'est tout l'objet en fait de différents concepts qu'on peut mettre en place et des choses qu'on a envie de faire. Hein.
Ouais.
Donc voilà, donc voilà, 7e Dan, très fier.
Très bien et écoute, bravo hein. En tout cas, on a parlé beaucoup passion pendant cette heure et on sent que là aussi, tu l'as fait vraiment par goût et par amour pour ce sport. Donc je trouve ça beau et t'as parlé un petit peu des projets de la suite. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quels sont les projets? Quels sont tes rêves? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut attendre de toi pour la suite?
M'aider, en fait, c'est toujours pareil. On s'aide, sur le sportif individuel, champion individuel, c'est par ton engagement, hein, que tu vas t'aider au maximum. Nous, ce que je fais, mon quotidien, c'est justement d'accompagner, hein, les gens, j'ai des profils différents. C'est ça qui est sympa. J'accompagne donc des chefs d'entreprise. Je peux accompagner donc des gens qui ont des profils différents. Je peux accompagner des structures hein, carrément c'est ça qui est vraiment qui me fait vivre, ma passion est entretenue. Ouais. On a des projets sur le développement quand même de ma structure hein, c'est ça il y a des tout chaque jour il y a quelque chose qui arrive, ça peut être une stratégie commerciale, ça peut être une manière de gérer ses équipes, donc c'est tout ça fait mes journées en fait hein, mes journées ouais. Mon quotidien j'ai envie de parler aussi de ma petite fille, ma famille, de se garder ouais. du temps pour s'occuper un peu tout ça, s'entraîner aussi également, donc ça c'est okay.
Et concrètement la structure du coup c'est uniquement uniquement c'est déjà énorme, c'est ton club et c'est le fait que quand tu dis que tu accompagnes des gens, c'est via le karaté?
Alors
ou ça oui. peut être via d'autres
donc nous alors, pour parler un peu de l'IKC parce que on est là, donc nous on fait une partie cours normal, ce qu'on appelle les cours collectifs, cours de groupe. On a une particularité, c'est qu'on a donc un accès à tous les sports hein, tous les sports de combat. On est combattant hein, à la base, je parle du karaté, mais on fait de la boxe, on fait de la boxe thaï, on fait du MMA, okay. Donc tous les sports de combat sont proposés chez nous en cours collectif. Donc voilà, ça c'est une chose. C'est le cas aussi en coaching privé. Donc on a des gens qui viennent évidemment apprendre différentes disciplines. Moi je suis assez polyvalent hein, donc évidemment après quand on a fait 40 ans de sport de combat, de karaté, j'ai un certain niveau en boxe, j'ai un certain niveau en boxe thaï, j'ai un certain niveau en MMA. Donc en fait, on est capable là, de faire quand même pas mal de choses. Donc ça c'est ce que je fais, je suis toujours hein, intervenant hein, toujours sur les cours de karaté hein, de groupe. Les cours de groupe et cours collectifs en karaté, donc là c'est moi qui m'occupe de tout le monde hein. Je garde ce flambeau là pour, donc j'ai le public enfant et adulte, ça j'aime. Et puis après, bon, évidemment, on est sollicité aussi par mon parcours. Je peux être sollicité pour les séminaires, pour des conversations, pour de l'échange, pour de l'idée, de la stimulation. Voilà, donc tout ça, tout ce qui correspond en fait à ma fibre et à ma passion.
Bon bah trop bien, trop bien. Et écoute, j'encourage en tout cas les auditeurs à suivre ça de près, puis à aller regarder un petit peu exactement ce que tu fais, ce que tu peux proposer, notamment si vous êtes sur Lyon, encore plus. Et il y a pas mal de Lyonnais d'ailleurs dans les auditeurs, donc ça tombe super bien.
Super. Il y a Instagram, hein, attention. Hein, ça compte. Hein.
Mais je mettrai le lien dans les descriptions de l'épisode. Elle est le club se trouve où? Peut-être pour
Lyon Centre, rue de Brest, IKC.
Trop bien.
Instagram IKC Damien Dovi.
Et ben, écoute, je serais vraiment hyper content s'il y a quelques Lyonnais qui passent te dire bonjour et te dire
avec plaisir.
Voilà, j'ai écouté sur Extraterrien et du coup je me suis même juste passé dire bonjour et passer une tête, ça fait toujours plaisir. La dernière question que je pose sur le podcast, c'est un petit peu comme un passage de flambeau. C'est qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format un peu comme celui-là, libre, et je suis sûr que tu as rencontré des gens très sympas, donc ta recommandation je vais la noter soigneusement, mais j'imagine que ça va être dur de choisir, mais si t'as quelques noms de personnes inspirantes, je suis hyper preneur.
En fait, donc quand on cherche comme ça, donc il y a plein de sportifs hein, que t'as envie de, évidemment que t'as envie d'entendre, qui correspondent. Moi, j'ai une passion à côté du karaté, j'aime le ski. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que voilà, ça me plaît. Donc je passe les flèches, les chamois, choses comme ça. J'aime bien ce côté quand tu c'est le genre de sport que c'est quand tu rates un truc, c'est foutu. Hein, c'est genre tu rates une emprise de volée au foot, tu tires, tu tues un corbeau, c'est pas grave. Donc c'est toi. Donc tu alors qu'en ski, voilà, t'as raté une porte, c'est fini ta compétition et c'est tant pis pour toi. C'est rendez-vous dans un an. Ouais. Donc c'est ça. Et pour ça, il y a un gars qui me plaît. Il s'appelle on se connaît pas, mais Julien Liseroux. Il vient de terminer sa carrière maintenant. On a un point commun, 24 ans de compétition de haut niveau.
Okay.
Et je crois que c'est le top parce que je vois que il s'est accroché longtemps, il a fait des bons résultats dans le top, un top 3 mondial en slalom et tout. Et je crois qu'il mériterait d'être interviewé.
Bah ça marche. Ben écoute, je note pour Julien. Merci infiniment Damien, j'ai passé un super moment en ta compagnie. Plein d'outils en plus sur lesquels je pense qu'on peut réutiliser et même sur lesquels on peut méditer un peu.
Ah, carrément, on pourrait même en refaire un presque à la limite.
Bah ouais, c'est vrai. Bah écoute, pourquoi pas pour plus tard, tu vois, je me suis dit là ça va faire 2 ans et je me suis dit que ça pourrait être sympa de réinviter des invités et de voir 2 ans après.
Que sont-ils devenus?
Exactement, que sont-ils devenus et de parler avec peut-être un petit peu plus de connexion et de connivence pour faire une deuxième épisode. Donc je te note dans la liste.
Avec plaisir encore. Hein.
Salut, à très bientôt.
Salut, salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.